sais pas si vous êtes comme moi, mais depuis 2 ans, on est un peu ébranlé. Vous êtes ébranlé ? On a l'impression que tous les repères que l'on avait tombent les uns après les autres. Tout ce qui fondait l'idéologie de notre société, le progrès, tous nos politiques étaient élus sur l'idée de progrès, un progrès indéfini. Voilà. Tout ça, ça a pris du temps dans l'air. L'image de notre Église, on en a pris un petit peu aussi. Et voilà que cette Europe que l'on pensait pas jamais éventuée est au milieu d'un conflit armé terrible. Que faire avec tout ça? Qu'est-ce qui reste quand tout s'écroule? Je pourrais poser la question, qu'est-ce qui reste quand tout s'écroule? Cette question, c'est la question centrale de notre foi. Parce qu'on peut se la poser en regardant Jésus en croix. C'est la question de la croix. Sur la croix, le monde de Jésus s'est écroulé. Humainement, il n'a plus aucune sécurité. Il a tout perdu. Humainement, il a tout raté. Il est seul. Alors que reste-t-il sur la croix? Que reste-t-il? Il reste ce plongeon dans la confiance. Ce lien indestructible qui relie le Fils au Père. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Sur la croix, Jésus vient renouer le fil de la confiance en Dieu, notre Père. C'est-à-dire que nous ne serons plus jamais seuls. Sur la croix, Jésus vient, on le représente souvent, comme fracassant la pierre de notre tombeau pour venir nous y chercher et nous ouvrir un chemin de vie. Parce que Dieu veut pour nous la vie. Dieu veut pour nous le meilleur. Je vous dis ce passage de Deutéronome, tu as devant toi la vie ou la mort, le bonheur ou le malheur, je m'en prie, choisis la vie. Et on sent bien qu'aujourd'hui, les choix que nous sommes appelés à poser autant personnellement qu'ensemble, ce sont des choix qui vont soit vers la mort, soit vers la vie. Parce qu'on sait aujourd'hui que notre monde, notre planète, elle est mortelle. Et qu'on a la capacité de mettre fin à cette vie magnifique que vous avez. Mais on a aussi cette liberté, et c'est ça. Ce qui est très beau, c'est cette liberté que Dieu nous donne de choisir la vie. Et c'est bien ce fil rouge que l'encyclique Laudato si nous permet de vivre. C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans mon texte, ce texte. Alors il faut les lire. Il faut lire ensemble Laudato si et Fratelli tutti. Hein, c'est vraiment les deux très grandes encycliques sociales qui sont complémentaires l'une l'autre. Hein. Il faut vraiment les lier. Oui, ce que j'ai aimé dans Laudato si, c'est que en même temps, le pape a une analyse, le pape évidemment toute son équipe a travaillé avec lui, hein, une analyse extrêmement fine et vraie de la réalité, il appelle un chat, sans jamais perdre de vue l'espérance. C'est-à-dire qu'il ouvre toujours une perspective. Il nous invite et il nous croit capable de poser des gestes concrets de conversion. C'est pour ça que j'ai intitulé cette intervention « L'écologie intégrale, un art de vivre ». Et on va ensemble circuler un peu dans l'encyclique. L'encyclique commence ainsi. Notre maison commune, si on peut faire mieux, peut-être un peu plus, non ? Ça va, vous voyez bien ? On peut peut-être fermer, il y a juste une lumière du diaporama, vous pouvez le retrouver sur le site internet du diocèse. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, pas besoin de 30 minutes. Ah ben voilà, ça va être mieux là. Notre maison commune est comme une sœur avec laquelle nous partageons l'existence. Et comme une mère, belle, qui nous accueille à bras ouverts. C'est le pape l'a pas inventé, il a pris chez saint François, dans son cantique des créatures, « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur, notre mère, la terre, qui nous soutient et nous gouverne, et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l'herbe. » C'est étonnant cette approche. Sœur, notre mère, la terre. Vous voyez que dès les premières lignes, nous voilà décentrés. On a l'habitude, nous, de mettre toujours l'humain au centre de tout, hein, de nous mettre au cœur. Et voilà que là, ce qui est central, c'est plus nous, c'est la terre. Sans la terre, nous ne sommes rien. La terre qui nous soutient et nous gouverne. Les images sont très belles. Elle nous soutient et nous gouverne. Elle produit divers fruits avec des fleurs colorées et l'herbe. Saint François nous invite à prendre conscience que tout nous est donné. On reçoit tout. Bien sûr que nous avons à travailler la terre. Nous travaillons ce qui nous est donné. Le monde est plus qu'un problème à résoudre, il est un mystère joyeux que nous contemplons dans la joie et dans la louange. Ça, c'est la posture chrétienne. Nous ne ferons rien sans retrouver le chemin de l'émerveillement. La lamentation, les lamentations n'ont jamais permis de construire quoi que ce soit. Sinon, vous désespérez un peu plus et vous désespérez nos voisins. Par contre, l'émerveillement transforme nos cœurs, nos regards et nous transforme profondément. Donc la terre est belle, la vie est belle, parce qu'elle nous est donnée par Dieu. Nous avons été, nous chrétiens, témoins de cette beauté. Cette sœur crie en raison des dégâts que nous lui causons par l'utilisation irresponsable et par l'abus des biens que Dieu a déposés en elle. Nous avons grandi en pensant que nous étions ses propriétaires et ses dominateurs, autorisés à l'exploiter. C'est pourquoi, parmi les pauvres les plus abandonnés et maltraités, se trouve notre terre opprimée et dévastée. Voilà une approche qui est très neuve de notre pape, qui ne dissocie jamais l'aspect social et l'aspect écologique. Parmi les pauvres les plus abandonnés et maltraités se trouve notre terre comprimée et dévastée. Ça change tout quand on a ce regard-là sur votre terre. Alors il y a, vous avez trois merveilleux paragraphes sur saint François d'Assise, qui était son inspirateur, et voilà ce qu'il dit de saint François. Je crois que François d'Assise est l'exemple par excellence de la protection de ce qui est faible et d'une écologie intégrale vécue avec joie et authenticité. Il a manifesté une attention particulière envers la création de Dieu ainsi qu'envers les pauvres et les abandonnés. C'était un mystique et un pèlerin qui vivait avec simplicité et dans une merveilleuse harmonie avec Dieu, avec les autres, avec la nature et avec lui-même. En lui, on voit jusqu'à quel point sont inséparables la préoccupation pour la nature, la justice envers les pauvres, l'engagement pour la société et la paix intérieure. Ces trois dernières lignes sont fondamentales parce que c'est la définition de l'écologie intégrale. Vous savez, on la met un peu à toutes les sauces, l'écologie. Le pape nous dit que si on veut vivre pleinement en écologie, il faut vivre ensemble, en même temps, ces quatre dimensions. La préoccupation pour la nature, la justice envers les pauvres, l'engagement pour la société, c'est la politique qui est derrière, hein, et la paix intérieure. Voilà ces quatre dimensions qui sont à soigner dans nos vies. C'est intéressant parce que vous voyez, on peut les garder dans le cœur et se dire où est-ce que j'en suis, hein, parce que tous, on développe plus ou moins telle dimension. Donc ça peut vous aider à dire, peut-être que. Et une dimension que je laisse un peu de côté, que j'ai peut-être à développer dans ma vie. Voilà, François nous invite à retrouver l'harmonie. Retrouver l'harmonie. C'est une copie du récit de la Genèse, hein, qui nous décrit ce passage du chaos à un monde harmonieux. C'est ça la Genèse. Une harmonie avec Dieu, avec les autres, avec la nature et avec soi-même. Alors, le pape a tout un chapitre que je mets juste les têtes de. Il y a un titre des différents paragraphes parce que vous connaissez bien cette réalité, hein, je ne la reprends pas. Ce qui se passe dans notre maison. Le changement climatique, la question de l'eau, parce qu'on parle de guerre de l'eau de plus en plus dans un centre de pays, l'érosion de la biodiversité, la détérioration de la qualité de la vie humaine et de la vie sociale, l'inégalité planétaire. C'est vrai qu'on pourrait se dire, franchement, on est tellement heureux, vivons bien, mais voilà. La faiblesse des réactions. C'est vrai qu'il y a une force d'inertie. Nous-mêmes, on ne vient pas à se bouger, à changer. Dans sa tête, on dit oui, il faudrait changer. Enfin, je ne sais pas, vous êtes bien meilleur que moi, mais dans la réalité de nos vies, de ma vie, j'ai même mal à dire à changer complètement. Et puis la diversité des opinions. Je suis encore étonné de rencontrer bien des gens qui nient. La réalité qu'ils ont sous les yeux. Tout ça, ils en reviennent dans cette idéologie. Alors, une fois que tout est tombé, une fois que tout s'est écroulé, eh bien, nous pouvons redécouvrir que nous ne sommes pas Dieu. Et que le cœur de ce qui nous arrive, c'est que nous ne sommes pas situés à notre juste place. Notre juste place, elle advient lorsque nous reconnaissons que la terre nous précède et nous a été donnée. Et par cette merveilleuse expression, tout l'univers matériel est un langage de l'amour de Dieu, de sa tendresse démesurée envers nous. Le sol, l'eau, les montagnes, toutes les caresses de Dieu. C'est magnifique, hein? Le sol, l'eau, les montagnes, toutes les caresses de Dieu. Tout. Le ver de terre qui traverse le chemin, le caillou sur lequel je lutte. Et même mon voisin, j'ai du mal à supporter toutes les caresses de Dieu. Ça change notre regard. Ça veut dire que même si je ne la connais pas, si je ne la comprends pas, chaque chose a une place unique. Chaque chose et chaque personne. Et donc, je dois la respecter. Je dois la respecter. Nous sommes donc appelés à une communion universelle. La nature s'entend d'habitude comme un système qui s'analyse, se comprend et se gère. Mais la création peut seulement être comprise comme un don qui surgit de la main ouverte du Père, ce Père de tous, comme une réalité illuminée par l'amour qui nous appelle à une communion universelle. Toutes ces... Ça demande d'être pris, hein. Toutes ces éléments denses, c'est tellement beau. Vous prendrez ça tranquillement à être posé. Tout est don qui surgit de la main ouverte du Père de tous, comme une réalité illuminée par l'amour qui nous appelle à une communion universelle. Et ça, c'est le projet de Dieu. La communion universelle, l'autre nom de cette communion, ça s'appelle la Trinité. C'est-à-dire que Dieu veut nous faire partager sa vie. Il veut nous faire goûter de cette communion qui vit Père, Fils et Esprit, cette communion d'amour liée à ceci, non seulement tous les humains, mais la création tout entière à la vie trinitaire. Je le prévois. Chaque créature a du prix. Chaque créature possède sa bonté et sa perfection propre. Les différentes créatures voulues en leur être propre reflètent chacune à sa façon un rayon de la sagesse et de la bonté infinie de Dieu. C'est pour cela que l'homme doit respecter la bonté propre de chaque créature pour éviter un usage désordonné des choses. Chaque créature et chaque personne. Parfois, il faut beaucoup de fois pour le découvrir. Même M. Poutine a un aspect de sa personnalité que personne ne pourrait lui retirer parce qu'il est aussi fils bien-aimé du Père. Nous avons chacun une personnalité infiniment plus riche que nous pensons. On va demander à Seigneur cette grâce d'avoir ce regard de foi les uns sur les autres. Voilà pourquoi sur la création, pour découvrir derrière la carapace la beauté intrinsèque de chacun, de chaque chose. Je lis ce très beau texte de Saint Bonaventure, qui est un des successeurs de Saint François d'Assise. Celui de tant de splendeur créé n'illumine pas est un aveugle. Celui que tant de cris ne réveille pas est un sourd. Celui que toutes ses œuvres ne poussent pas à louer Dieu est un muet. Celui que tant de signes ne forcent pas à reconnaître le premier principe est un sot. Ouvre les yeux, prête l'oreille de ton âme, délie tes lèvres, applique ton cœur. Toutes les créatures te verront voir, entendre, louer, aimer, glorifier et adorer ton Dieu. Je vous aime. Dans ce texte, on va préparer une célébration immense à partir de ça. Mais ça donne une bonne lecture. Hein. Est-ce que je suis pas aveugle, sourd? Ce qui est extraordinaire, c'est que quand on ouvre la Bible, dès les premières pages, tout est dit. Tout est dit du projet de Dieu et tout est dit de notre identité et de notre vocation profonde. Après la création de l'être humain, Dieu dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. La Bible enseigne que chaque être humain est créé par amour, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Chaque être humain. C'est quelque chose que se lever matin en se regardant dans la glace et d'entendre Dieu me dire comme cela est bon, comme cela est bon que tu vives. Comme cela est bon que tu sois, tu as en toi une étincelle de mon amour, de cet amour divin. C'est l'image de ma divinité que je déposerai en toi. C'est pas rien. C'est pas rien. Et il souffla dans ses narines une haleine de vie et l'humain devint un être vivant. Il y a tout un discours qui aujourd'hui voudrait nous réduire à un amas de cellules. Mais nous sommes beaucoup plus que ça. Sans le souffle divin, nous ne sommes rien. Physiquement, sans le souffle, je ne sais pas si vous avez essayé, vous pouvez dire « Je ne veux dépendre de rien ni de personne, donc j'arrête de respirer. » Ben, ça ne va pas durer longtemps. Bien, nous sommes invités à redécouvrir que ce souffle qui nous est donné à chaque instant, c'est Dieu qui nous le donne. C'est-à-dire que Dieu nous crée sans ça. Nous sommes en création. Nous sommes en création. Ça, c'est extraordinaire parce que c'est une vision extrêmement belle et optimiste de ce que nous sommes. Aux yeux de la société, on est, on grandit, bon, 40 ans, on est au lieu de sa forme. À partir de 50 ans, on commence déjà un peu à décrire. Et puis après 60, alors là, c'est pas. On n'intéresse plus personne. Alors à 80, je ne vais pas le dire. Eh bien, la vision chrétienne, elle est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on ne cesse de naître. On ne cesse de naître à cette vie divine qui est en nous. Bien sûr que le corps, il vieillit, il fatigue, il a. Mais cette vie divine, elle est intacte. On ne cesse de la profondir, de la découvrir. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je me souviens, j'étais plus jeune, un frère âgé, et un frère âgé, et lui, un frère fraternité avec toi, mais il m'émerveillait. Il m'émerveillait. Parce que je lui disais, là, c'est vrai que je suis allé vite, mais qu'est-ce que j'aime la vie. C'est un frère qui était tellement passionné, dévoué à l'écoute de tout. Voilà. C'était très très beau. Je crois qu'on doit vraiment, en tant que chrétien, être témoin de cette belle dimension de notre humanité. Donc si la larme, vous savez que la larme, c'est pas mon propre, hein, c'est l'humain. Donc, si la larme est tirée de la Adama, c'est-à-dire de la terre, ça veut dire que nous ne sommes pas à part, encore moins surtout du reste de la création. Et pourtant, il y a une chose essentielle qui nous en distingue, c'est que nous sommes créés à l'image, à la ressemblance de Dieu et traversés du souffle. Une dimension que nous devons redécouvrir, c'est cette dimension trinitaire de la personne, de toute personne humaine. Donc nous sommes à la fois physiques, psychiques et spirituels. Ça veut dire qu'il y a en moi plus que moi-même. Ce lieu où je m'enracine en Dieu et où Dieu se déploie en moi. Ce lieu inaliénable que personne ne pourra me ravir. Celui qui donne à toute personne une dignité intrinsèque. Selon les traditions spirituelles, on le nomme l'esprit, le cœur profond, la fine pointe de l'âme. Michel Fromager, qui a travaillé cet aspect, écrit « La tragédie absolue de notre civilisation fut d'avoir consenti à la disparition de l'anthropologie apostolique ternaire, car pris des normes de sa troisième dimension, équivaut à l'empêcher de naître à son être total, essentiel et seul réel, celui dont la possibilité et la nostalgie invitent au plus intime de ses gènes et montent toute sa vie. C'est comme empêcher une chenille de devenir papillon. Et de ce fait, cette aliénation ontologique libère et détourne vers l'extérieur des énergies formidables qui ne savent se dépasser autrement que dans la poursuite des valeurs les plus triviales, dans l'exploitation des plus démunis et dans l'exténuation de la planète. Cette conception ternaire est pour moi le seul moyen d'éviter durablement la catastrophe écologique. Compliqué, mais en tout cas, dans ma fonction d'exorciste, je reçois beaucoup de gens cabossés par la vie, beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. Et j'ai vraiment trouvé de la colère en constatant combien notre société est d'une violence inouïe. De priver ses enfants de cette dimension spirituelle de leur vie. C'est terrible. Et lorsque les personnes s'ouvrent à cette dimension spirituelle, je vois comme une petite lueur dans le regard, quelque chose qui change. C'est ça, mon parle chez le courage. Si je suis qu'un estomac à remplir, ça ne peut que générer de la violence. S'il n'y a pas cette dimension spirituelle de notre être qui est développée, alors notre monde est perdu. Alors, de manière plus poétique, Antoine de Saint-Exupéry écrit « Il n'y a qu'un problème, un seul, redécouvrir qu'il y a une vie de l'esprit plus haute encore que la vie de l'intelligence. » La seule qui satisfasse l'homme. Une vie d'esprit plus haute encore. Les troisième citation est d'un grand mystique musulman, Rumi. Il existe deux sortes d'intelligence. C'est écrit au XIIIe siècle. il existe deux sortes d'intelligence. L'une acquise à l'école, quand l'enfant retient des faits et des concepts à partir des livres et des paroles du maître, recueillant des informations des sciences traditionnelles et des sciences nouvelles. Avec cette intelligence, on s'élève dans le monde. On est classé devant ou derrière les autres, selon son aptitude à retenir l'information. Avec cette intelligence, on se promène d'un domaine à l'autre de la connaissance, accumulant toujours plus d'inscriptions sur ses tablettes de conservation. Il existe une autre sorte de tablette. Une tablette déjà complète et conservée à l'intérieur de soi. Une source qui déborde. Une fraîcheur au milieu de la poitrine. Cette autre intelligence ne jaunit pas à force de stagner. Elle est fluide et elle ne se veut pas de l'extérieur vers l'intérieur par les tuyaux de la plomberie apprentissage. Ce second savoir est une fontaine qui s'écoule de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, une image magnifique pour moi, cette vieille père de l'Église, qui nous invite à découvrir en nous cette source profonde qui ne demande qu'à agir. Laissez jaillir en nous cette source. Alors, un des thèmes centraux de l'encyclique, c'est que tout est lié. Tout est lié. L'existence humaine repose sur trois relations fondamentales intimement liées. La relation à Dieu, la relation au prochain, la relation à la terre. Et on doit les vivre ensemble pour vivre en harmonie. Nous avons des liens si forts et si beaux, créés par le même Père. Nous et tous les êtres de l'univers sommes unis par des liens invisibles et formons une sorte de famille universelle, une communion sublime qui nous pousse à un respect sacré, tendre et humble. Je veux rappeler que Dieu nous a unis si étroitement au monde qui nous entoure que la désertification du sol est comme une maladie pour chacun. Et nous pouvons nous lamenter sur l'extinction d'une espèce comme si elle était une mutilation. Quelque chose de fort, hein? Alors on parle de dérèglement climatique. Je vais demander de devrions-nous pas plutôt parler de dérèglement spirituel, l'un entraînant l'autre. Parce que l'harmonie entre le Créateur, l'humanité et l'ensemble de la création a été détruite par le fait d'avoir prétendu prendre la place de Dieu en refusant de nous reconnaître comme des créatures limitées. C'est ça que nous raconte la Genèse, le second récit de la création. Il commence par nous dire que Dieu dit que tout est à vous. Tous les arbres du jardin, tout est cadeau, sauf un arbre. C'est que Dieu pose la limite. La limite, elle veut dire tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Tu seras heureux dans la mesure où tu accueilles tout comme un don. Et Dieu accepte de ne pas être plus puissant. On voit ce que la toute-puissance est capable de déchaîner une violence aujourd'hui. C'est ça la toute-puissance. Parce que je me prends pour Dieu. Et Dieu veut nous protéger de nous-mêmes. C'est ça la limite. Vous le savez bien, vous qui êtes parents. Poser des limites à ses enfants, c'est pas les empêcher, c'est les protéger de eux-mêmes. Eh bien, le péché, c'est l'histoire de la transgression de ce qui est. De prendre la place de Dieu. face à cette situation, le pape nous invite à une conversion. Une conversion écologique. Il ne sera pas possible, dit le pape, de s'engager dans de grandes choses seulement avec des doctrines, sans une mystique qui nous anime, sans les mobiles intérieurs qui poussent, motivent, encouragent et donnent sens à l'action personnelle et communautaire. Je crois que c'est là où nous, chrétiens, nous avons un rôle essentiel à jouer. Au milieu de temps de militants écologiques, c'est une générosité extraordinaire, mais les aider à enraciner des raisons profondes de leur action. Avoir ce que le pape appelle une mystique qui nous anime. Alors nous avons le choix entre deux attitudes fondamentales, mais sans doute que nous avons les deux qui sont au milieu, qui sont en nous. Hein. Soit nous vivons les mains ouvertes. Mains ouvertes pour accueillir, pour rendre grâce et pour fraterniser. Ou alors, main qui cherche à saisir, à accaparer, à dominer les personnes qui les bien en pleine nature. Tout le drame des abus, il est là. Il est là. Hein. Il y a un mot qui parle de cette attitude, c'est le mot chasteté. La chasteté, c'est le refus de mettre la main sur l'autre, le refus de le posséder, le refus de ressentir en faire sa chose. Dès que je chasse d'être mains ouvertes pour accueillir l'autre, comme un mystère que Dieu met sur mon chemin, quand je cherche à le posséder pour moi. Face à cette attitude profonde que l'on a tous en nous, il faut toujours batailler pour ouvrir les mains. Le pape nous invite à reconquérir notre liberté. Le système technico-économique fait croire à tous qu'ils sont libres tant qu'ils ont une soi-disant liberté pour consommer, alors que ceux qui ont en réalité la liberté, ce sont ceux qui constituent la minorité en possession du pouvoir économique et financier. Ça veut dire que nous sommes des marionnettes, de plus ou moins conscience. Mais il y a quelques-uns qui tirent les ficelles et qui nous font croire qu'on est libre. Quel est le levier possible, dit le pape? Un changement dans les styles de vie pourrait réussir à exercer une pression saine sur ceux qui détiennent le pouvoir politique, économique et social. C'est ce qui arrive quand les mouvements de consommateurs obtiennent qu'on n'achète plus certains produits et deviennent ainsi efficaces pour modifier le comportement des entreprises en les forçant à considérer l'impact environnemental et les modèles de production. C'est un fait. Quand les habitudes de la société affectent le gain des entreprises, celles-ci se trouvent contraintes à produire autrement. Cela nous rappelle la responsabilité sociale des consommateurs. C'est vrai que depuis quelques années, j'ai commencé moi-même à modifier ma manière d'acheter. Par exemple, ça fait des années que je n'achète plus rien sur Internet, sur Amazon, sur. C'est pas bien ça. Je regarde aussi où viennent les choses. C'est des toutes petites choses. Si tout le monde fait des toutes petites choses, ça a un impact important. Tout ça peut amener à redonner du sens à notre vie personnelle et collective. La conscience de la gravité de la crise culturelle et écologique doit se traduire par de nouvelles habitudes. Beaucoup savent que le progrès actuel Tout comme la simple accumulation d'objets ou de plaisirs ne suffit pas à donner un sens ni de la joie au cœur humain. Mais ils ne se sentent pas capables de renoncer à ce que le marché lui offre. La paix intérieure des personnes tient dans une large mesure de la préservation de l'écologie et du bien commun. Parce que, authentiquement vécue, elle se révèle dans un style de vie équilibré, joint à une capacité d'admiration qui mène à la profondeur de la vie. La nature est pleine de mots d'amour. La nature est pleine de mots d'amour. Mais comment pouvons-nous les écouter au milieu du bruit constant, de la distraction permanente et anxieuse et du culte de l'apparence? Le pape nous invite à choisir la sobriété heureuse. La sobriété qui est vécue avec liberté et de manière consciente est libératrice. Ce n'est pas moins de vie, ce n'est pas une basse intensité de vie, mais tout le contraire. Car en réalité, ceux qui jouissent plus et vivent mieux chaque moment sont ceux qui cessent de picorer ici et là en cherchant toujours ce qu'ils n'ont pas. Ils ont ainsi moins de besoins insatisfaits et sont moins fatigués et moins tourmentés. On peut vivre intensément avec peu, surtout quand on est capable d'apprécier d'autres plaisirs et qu'on trouve satisfaction dans les rencontres fraternelles, dans le service, dans les déploiements de ses charismes, dans la musique et l'art, dans le contact avec la nature, dans la prière. Le bonheur requiert de savoir limiter certains besoins qui nous alourdissent en nous rendant ainsi disponibles aux multiples possibilités qu'offre la vie. Suit alors une méthode que nous propose le pape. La première, il y reviendra très longuement dans Fratelli Tutti, c'est le dialogue. Privilégier le dialogue avec, entre tous. Dans toute discussion autour d'une initiative, une série de questions devrait se poser en vue de discerner si elle offrira ou non un véritable développement intégral. Pourquoi? Par quoi? Où? Quand? De quelle manière? Pour qui? Quels sont les risques? À quel coût? Qui paiera les coûts? Et comment le fera-t-il? Souligné un beau paragraphe qui nous invite à soigner notre cadre de vie. Nous avons la chance, on a un cadre de vie merveilleux. Il nous invite à analyser l'espace où vivent les personnes. Le cadre qui nous entoure influe sur notre manière de voir la vie, de sentir et d'agir. J'étais cet après-midi à Clermont, c'est de vos lieux. Se met en place avec les scopatriques sur la chapelle des Lumières, hein, sur un projet magnifique. Et il y a une dame qui va chercher dans les poubelles des cimetières toutes les fleurs qui sont jetées et qu'elle peut replanter. Et elle est en train de faire des parterres absolument magnifiques avec, dans ce lieu. Et nous avons de la beauté. Ça, c'est vraiment important, la beauté capable de changer quelque chose de très profond. Il faut prendre soin des lieux publics, du cadre visuel qui accroisse notre sens d'appartenance, notre sensation d'enracinement, notre sentiment d'être à la maison. Ainsi, les autres cessent des étrangers et peuvent se sentir comme faisant partie d'un nous que nous construisons ensemble. Prêter attention à la beauté et l'aimer nous aide à sortir du pragmatisme utilitariste. Je suis allé rencontrer une communauté de sœurs franciscaines dans une ZUP à Chelles, dans la région parisienne, et se désolaient de ce que les gens jettent tout par la fenêtre, on jette tout et tout. Alors elles ont été frappées aux portes des appartements Et ils ont proposé que les enfants fassent un petit club de jardin. Et les enfants ont commencé à jardiner au pied des tours. Et à partir de ce moment-là, les gens ont cessé de jeter les ordures par les enfants parce qu'ils se sont appropriés ce lieu. C'était leur jardin. L'espace public est devenu leur jardin. Il y a des choses toutes simples, mais qui peuvent changer beaucoup de choses. Voilà, ces gestes tout simples que beaucoup de nous vivons déjà, hein, par les choix de l'homme, promouvoir une agriculture durable et diversifiée, cuisiner seulement ce que l'on doit raisonnablement manger, développer des formes d'énergie renouvelable et peu polluantes, réduire la consommation d'eau, éviter l'usage de matières plastiques et de papier, protéger la diversité biologique, développer l'économie de déchets et du recyclage, veiller à une bonne gestion des transports, consommation, covoiturage, transport en commun, vélo, éteindre les lumières inutiles. Voilà, un beau chantier devant nous. Alors je me disais, qu'est-ce que nos communautés paroissiales, qu'est-ce que nos groupes donnent à voir, à découvrir, à goûter, à expérimenter aux personnes qui nous fréquentent. Comment grandir en cohérence entre ce que nous voulons vivre ensemble et ce que nous célébrons et les choix concrets faits au quotidien. Ça, c'est un sacré défi que celle de la cohérence. Je crois que pour les jeunes que je rencontre, c'est ça qu'ils attendent de nous, une cohérence. Ils sont très, les jeunes sont souvent pas tous, mais beaucoup sont très, très exigeants par rapport à ça. Voilà, un petit voyage qui permet vraiment d'être aussi. Je laisse la parole maintenant à Yann.